Chapitre 9e, la rencontre. Jean revint d'assez bonne heure à la gare de Strasbourg et prit le train pour Obernai où il avait laissé sa bicyclette. En faisant la route d'Obernai à Alzheim, il aperçut dans les prairies que traverse le Dax près de Bernardsweiler une seconde cigogne immobile sur un pied. Ce fut même la première chose qu'il dit à Lucienne rencontrée sous les arbres du parc. Elle lisait, habillée d'une robe gris de lin avec des applications de guipure au corsage. Ses yeux intelligents se levèrent en souriant de la page qu'il parcourait. Lorsqu'elle entendit le bruit de la machine sur le sable, Jean sauta à terre, Lucienne l'embrassa et dit « Mon cher, que tu me manques donc ? Que diable fais-tu toujours en voyage ?»« Des découvertes, ma chère sœur. » D'abord, j'ai vu deux cigognes arriver au jour sacré, 23 avril, exactes comme des notaires. Une moue des lèvres rouges montra le peu de cas qu'elle faisait de la nouvelle. Ensuite, j'ai passé 3 heures dans les bureaux de la conservation des forêts où j'ai appris. « Tu diras ça à mon père, » interrompit-elle. « Je vois tant de bois, vivants et morts ici, que je n'ai aucune envie d'en avoir l'esprit volontairement occupé. » « Raconte-moi donc une nouvelle de Strasbourg, une toilette, une conversation avec quelqu'un du monde. »« C'est vrai, » dit en riant le jeune homme, « j'ai fait une rencontre. »« Intéressante ?»« Oui, une ancienne connaissance de Munich, un lieutenant de hussards, monsieur de Farnau. »« Lui-même, le lieutenant au 9e hussard, Rhénan, Wilhelm von Farnau. Qu'as-tu donc ?» Ils étaient à moitié de l'avenue, protégés par un massif d'arbustes. Lucienne, brave et provocatrice comme toujours, croisa les bras et dit, calmant sa voix, « Il y a qu'il m'aime. »«
Lui ?»«
Et que je l'aime. » Jean s'écarta de sa sœur pour la mieux voir. « Ce n'est pas possible. »«
Et pourquoi donc ?»«
Mais Lucienne, parce qu'il est allemand, prussien, officier. » Il y eut un silence, le coup avait porté. Jean devint tout pâle, il reprit, « Tu n'ignores pas non plus qu'il est protestant. » Elle jeta son livre sur le banc et relevant la tête et toute frémissante sous la contradiction. « Crois-tu que je n'ai pas réfléchi ? » ?»«
Je sais tout ce qu'on peut dire. Je sais que le monde d'Alsace, le monde intolérant et borné dont nous sommes entourés, ne se gênera pas. Oui, on criera, on m'accusera, on me plaindra, on essaiera de m'ébranler. Et tu commences toi, n'est-ce pas ? Mais je te préviens que les arguments sont inutiles, tous les arguments, je l'aime. Ce n'est pas à faire, c'est fait, et je n'ai qu'un désir, savoir si tu seras pour ou contre moi. Car ma résolution, mon ami, ne changera pas.
Oh mon Dieu, mon Dieu ! Fit Jean en se cachant la figure dans ses mains. Je ne croyais pas que cela pût te faire tant de peine. Je ne comprends pas. Est-ce que tu partages leur haine stupide, dis ? Je surmonte bien mon émotion pour te parler. Dis donc, parle donc. Tu es plus pâle que moi, qui suis cependant seul en cause. Elle lui prit les mains et lui découvrit le visage. Et Jean la considéra un moment d'un air étrange, comme ceux dont le regard n'a pas encore été rejoint par la pensée. Puis il dit, tu te trompes. Nous sommes tous deux en cause, Lucienne.
Pourquoi ?
L'un contre l'autre, parce que j'ai aussi un amour à t'apprendre. J'aime Odile Bastian. Elle fut épouvantée de ce qu'elle entrevit dans ce nom d'Odile et touchée en même temps, parce que l'argument était un argument d'amour et une confidence. Toute son irritation tomba subitement. Lucienne pencha la tête sur l'épaule de son frère. Ses coques de cheveux blonds mêlés de roux se gonflèrent et s'ébouriffèrent contre le cou de Jean. Elle murmura
« Mon pauvre Jean, la fatalité nous poursuit. Odile Bastian et l'autre, deux amours qui s'excluent. Ah, mon pauvre cher, c'est le drame de famille qui se perpétue par nous. »
Elle se redressa, ayant cru entendre un pas et, prenant le bras de son frère, continua nerveusement «
Nous ne pouvons pas causer ici. Il faut pourtant que nous nous disions autre chose que des noms. Si mon père nous surprenait, ou maman, qui travaille au salon, à je ne sais quelle sempiternelle tapisserie. Ah, mon ami, quand je songe qu'à quelques pas d'elle nous échangeons des secrets comme cela, et qu'elle ne s'en doute pas. Mais nous d'abord, n'est-ce pas, nous ? » Elle eut un instant la pensée de revenir à la maison et de monter dans sa chambre avec Jean, puis, se décidant pour un meilleur abri, « Viens dans les champs. Là, personne ne nous troublera. » Au bras l'un de l'autre, pressant le pas, se parlant à voix basse et par phrases brèves, ils sortirent par la grille, dépassèrent un peu l'extrémité de l'enclos, et à droite de la route, qui était plus haute que les terres voisines, ils descendirent la pente d'un sentier dont on voyait la bande grise presque à l'infini entre les blés naissants. Déjà, chacun d'eux, après la première minute de surprise, d'accablement, de peine véritable causée par la pensée de ce que l'autre allait souffrir, chacun va faire retour sur soi-même. « Peut-être avons-nous tort de nous troubler, » dit Lucienne en s'engageant dans le sentier. « Est-il certain que nos deux projets soient inconciliables ?»«
Oui. »
La mère d'Odile Bastien n'acceptera jamais que sa fille devienne la belle-sœur d'un officier. « Que sais-tu, toi-même, si cet officier n'aurait pas préféré entrer dans une famille moins arriérée que la nôtre ?» dit Lucienne, blessée. « Ton projet peut aussi nuire au mien. »«
Pardon, je connais Farnaud, rien ne l'arrêtera. »«
À vrai dire, je le crois. » fit la jeune fille dont le visage se releva et rougit d'orgueil.
« Il est de ceux qui n'ont jamais tort. »
« Parfaitement.
Tu fais partie de ses ambitions.
Je m'en flatte.
Tu peux donc être bien tranquille, il n'aura pas d'hésitation.
Les scrupules viendront du côté des Bastiens, qui sont des raffinés d'honneur.
Ah, s'il t'entendait,
dit Lucienne en quittant le bras de son frère, il se battrait contre toi.
Qu'est-ce que cela prouverait?
Qu'il a senti l'injure comme je la sens moi-même, Jean, car Monsieur de Farnaud est un homme d'honneur.
Oui, à sa façon, qui n'est pas la nôtre.
Très brave, très noble.
Féodal, plutôt, ma chère, c'est leur noblesse.
Ils n'ont pas eu le temps d'avoir celle d'après, peu importe, d'ailleurs.
Je ne suis pas trop d'humeur à discuter. Je souffre trop. Tout ce que je veux dire, c'est que ma demande sera repoussée. Je le devine, j'en suis sûr. Et que Monsieur de Farnaud ne comprendra pas pourquoi, et que s'il le comprenait, il ne reculerait pas. Il n'aurait pas l'idée de se sacrifier.
En disant cela, je ne le calomnie pas, je le pénètre. » Il marchait, enveloppé d'une lumière tiède dont il ne jouissait pas, entre de longues bandes de moissons jeunes qui riaient inutilement autour d'eux. Dans la plaine, quelques murs de terre, les voyant passer l'un près de l'autre et se promener, les enviaient. Lucienne ne pouvait nier que les pressentiments de son frère fussent raisonnables. Oui, cela devait être ainsi, d'après ce qu'elle-même connaissait de M. de Farnaud et des Bastiens. En toute autre circonstance, elle eut plaint son frère, mais l'intérêt personnel parlait plus haut que la pitié. Elle éprouva une sorte de joie trouble lorsqu'elle entendit l'aveu de ses craintes de Jean. Elle se sentit encouragée à ne pas être généreuse, parce qu'elle le sentait inquiet, et ne pouvant pas le plaindre, elle se rapprocha du moins de lui et lui parla d'elle-même. S'il y avait plus longtemps que nous vivions ensemble, Jean, tu aurais su mes idées sur le mariage, et je t'étonnerais moins aujourd'hui. Je me suis promis de n'épouser qu'un homme très riche. Je ne veux pas avoir peur pour mon lendemain, je veux être sûr et dominé.
La condition est remplie,
dit Jean avec amertume.
Farnaud a de grandes terres en Silésie.
Mais il est également lieutenant au 9e régiment de hussards Rhénan.
Eh bien,
officier dans une armée contre laquelle ton père s'est battu, ton oncle s'est battu, et tous tes parents de même, tous ceux qui avaient l'âge de porter les armes.
Sans doute.
Et moi-même, mon ami, je n'aurais pas demandé mieux que d'épouser un Alsacien. Peut-être même l'ai-je désiré sans le dire, mais je n'ai pas trouvé ce que je souhaitais. Presque tout ce qui avait un nom, une fortune, une influence, a opté pour la France. C'est-à-dire abandonner l'Alsace après la guerre. On appelait ça du patriotisme.
Les mots servent à tous les usages, en vérité.
Qu'est-il resté?
Tu peux compter facilement les jeunes gens d'origine alsacienne, appartenant à des familles riches, et qui auraient pu prétendre à épouser Lucienne Oberlé.
Elle continua en s'animant.
Mais ils ne m'ont pas demandé.
Ils ne me demanderont pas cela, mon cher. Voilà ce que tu n'as pas compris, peut-être.
Ils se sont écartés, avec leurs parents, parce que mon père se ralliait. Ils ont mis notre famille en interdit. Moi, je suis, par voie de conséquence, celle qu'on n'épouse pas. Leur intolérance, l'étroitesse de leur conception de la vie m'a condamné. Ils m'appellent la belle Lucienne Oberlé, mais aucun de ceux qui me regardent avec plaisir et qui me saluent avec une affectation de respect n'oserait braver son monde et faire de moi sa femme. Je n'ai donc pas à choisir, et tu n'as pas de reproche à m'adresser. La situation est telle que, bon gré, mal gré, je ne serai pas demandé par un Alsacien. Ce n'est pas ma faute. J'ai su ce que je faisais, je te l'assure, quand j'ai accepté, monsieur de Farnau. Accepté. En ce sens que je suis lié, évidemment. J'ai été, l'automne dernier, mais surtout depuis 4 mois, l'objet d'attentions sans nombre de la part de monsieur de Farnau. C'est lui qui était à cheval, là, sur la route, le soir de mon retour, oui. C'est lui qui visitait dernièrement la Syrie avec un autre officier, oui. Mais je l'ai vu surtout dans le monde, à Strasbourg, quand mon père me conduisait dans les dîners, dans les bals. Tu sais que maman, à cause de sa médiocre santé, mais surtout à cause de son aversion pour tout ce qui est allemand, s'abstient généralement de m'accompagner. Monsieur de Farnau ne s'abstenait jamais. Je le rencontrais sans cesse. Il avait toute liberté de me parler. Enfin, quand il est venu ici, justement, il a demandé à mon père si j'autoriserais une première démarche. Et ce matin même, après déjeuner, j'ai fait répondre que oui. Alors mon père consent? Oui. Les autres ignorent tout. Et ce sera terrible, tu penses bien. Ma mère, mon grand-père, l'oncle Ulrich. J'espérais ton appui, Jean, pour m'aider à vaincre les obstacles et pour m'aider aussi à guérir les blessures que je vais faire. Il faut d'abord que M. de Farnau soit présenté à maman, qui ne le connaît pas. Alzheim est impossible encore. Nous avions songé à une réunion dans une maison tierce à Strasbourg. Mais si je dois compter un ennemi de plus, à quoi bon te parler de mes projets ? Ils s'arrêtèrent. Jean songea un moment, devant la plaine qui déroulait ses bandes d'orge et de jeune blé mêlés par leurs bords, comme les reflets d'une grande eau courante. Puis, ramenant sa pensée et son regard sur Lucienne qui, le front relevé, suppliante, inquiète, ardente, guettait ses mots, « Tu ne peux savoir combien je souffre. Tu as détruit toute ma vie. Mon pauvre ami, je l'ignorais, ton amour. Et moi, je ne me sens pas le courage de détruire le tien. » Lucienne lui jeta les bras autour du cou. « Que tu es généreux, mon Jean, que tu es bon. » Il l'écarta et dit tristement, « Pas tant que tu l'imagines, Lucienne. Car ce serait être bien faible. Non, je ne t'approuve pas. Non, je n'ai pas de confiance dans ton bonheur. Mais au moins tu me laisses libre. Tu ne t'opposeras pas. Tu me défendras auprès de maman. Oui, puisque tu t'es engagé déjà, puisque tu as le consentement de mon père, et puisque la résistance de ma mère pourrait t'amener de plus grands malheurs. Tu as raison, Jean. De plus grands malheurs, car mon père m'a dit, oh oui, je devine. Il t'a dit qu'il briserait toute opposition, qu'il se séparerait de ma mère plutôt que de céder. Cela est tout à fait dans les vraisemblances. Il le ferait. Je n'engagerai donc avec lui aucune lutte. Seulement, je garde ma liberté vis-à-vis de Farnau. Qu'entends-tu par là ? Demanda-t-elle vivement. Je veux, répliqua Jean d'un ton d'autorité, où Lucienne sentit l'invincible résolution de son frère. Je veux qu'il sache parfaitement ce que je pense. Je trouverai quelque moyen de m'expliquer avec lui. S'il persiste après cela, dans sa volonté de t'épouser, il ne se méprendra pas, du moins, sur les différences de sentiments et d'idées qui nous séparent. « Cela, je le veux bien, » répondit Lucienne, subitement rassurée, et qui sourit, dans la certitude que M. de Farnau résisterait à l'épreuve. Elle se détourna du côté d'Alzheim. Un cri de victoire lui montait aux lèvres, elle le retint. Elle demeura quelque temps silencieuse, respirant vite et énervée, et cherchant, avec les yeux et avec la pensée, ce qu'elle pourrait bien dire pour ne pas dire son bonheur insultant. Puis elle secoua la tête. « Pauvre maison, » fit-elle. « À présent que je dois en sortir, elle va me devenir chère. Je suis persuadé que plus tard, quand la vie de garnison m'aura entraîné très loin de l'Alsace,
j'aurai des visions d'Alzheim. Je le reverrai en imagination. Tiens, comme il est là. »
Dans sa ceinture de verger, le village rassemblait ses toits roses. Et le village et les arbres formaient une île dans les blés et les trèfles d'avril. De menus oiseaux, dorés par la lumière, volaient au-dessus d'Alzheim. La maison des Oberlé, à cette distance, paraissait ne faire qu'un avec les autres. Il y avait dans les choses une si grande douceur qu'on eût pu croire douce la vie elle-même.
Lucienne s'abandonna à cette impression de beauté qui n'était venue chez elle qu'à la suite d'une pensée d'amour. Elle réentendit ses propres paroles.
« J'aurai des visions d'Alzheim, tiens, comme il est là. » Puis, la ligne onduleuse de la futaie des bastions, qui se soulevait comme un petit nuage bleuâtre au-delà des derniers jardins, la fit se souvenir de la douleur de Jean. Elle s'aperçut alors seulement qu'il n'avait pas répondu. Elle s'émut, non pas jusqu'à se demander si elle renoncerait à être heureuse pour que Jean fût heureux, mais jusqu'au point de regretter vivement, avec une sorte de violence tendre, ce conflit de leurs deux amours. Elle aurait voulu adoucir le chagrin qu'elle causait, le bercer avec des mots, l'endormir, ne plus le sentir si près d'elle et si vivant.
« Mon Jean, mon frère Jean, lui dit-elle, je répondrai à ce que tu feras pour moi, en t'aidant de mon mieux. Qui peut savoir si en travaillant ensemble, nous ne résoudrons pas le problème ?
Non, il est au-dessus de tes forces et des miennes.
Odile t'aime ?
Oui, n'est-ce pas qu'elle t'aime ?
Alors vous serez bien fort. »
Jean fit un geste de lassitude.
« N'essaie pas, Lucienne. »
« Revenons.
Je t'en prie, raconte-moi au moins comment tu l'as aimé. Je suis digne de comprendre cela. Nous étions convenus de nous dire mieux que des noms. Tu n'as que moi à qui tu puisses sans danger ouvrir ton âme. »
Elle se faisait humble. Elle était même humiliée de son bonheur secret. Elle renouvela sa demande. Elle fut affectueuse. Elle trouva des mots justes pour peindre la beauté fière d'Odile et Jean parla.
Il le fit, par besoin de confier à quelqu'un l'espérance qu'il avait eue et qu'il luttait encore pour ne pas mourir. Il raconta la vigile de Pâques à Saint-Odile et comment il avait rencontré la jeune fille le jeudi saint dans l'avenue de Cerisier. De là, l'un aidant l'autre à se souvenir, à préciser des dates, à retrouver des mots, ils remontèrent dans le passé jusqu'aux âges lointains où les divisions ne faisaient que commencer entre les parents, où elles étaient ignorées des enfants, inaperçues, où pendant les vacances, Lucienne, Odile, Jean pouvaient croire que leurs deux familles, intimement unies, continueraient de vivre en seigneur respecté et aimé du village d'Alzheim. Lucienne ne prenait pas garde qu'en évoquant ces images du temps heureux, elle n'apaisait pas l'esprit de son frère. Il avait pu s'y complaire un instant, dans l'espoir d'y fuir le présent, mais la comparaison s'était établie aussitôt, et la révolte n'en était que plus profonde, ameutant toutes les puissances de l'âme contre le père, contre la sœur, contre cette fausse pitié derrière laquelle se cachait l'incapacité de sacrifice de Lucienne. Le jeune homme ne répondit bientôt plus aux phrases de sa sœur. Alzheim grandissait, et formait maintenant une silhouette longue et brisée çà et là. Dans le soir calme, la maison des Oberlé levait parmi les cimes des arbres encore grêles son toit protecteur. Quand la grille du parc, fermée chaque jour après le départ des ouvriers, s'ouvrit pour les deux promeneurs, Jean s'effaça devant Lucienne et la laissant passer, dit très bas, d'un ton d'ironie. « Allons, baronne von Farnau, entrez chez l'ancien député protestataire Philippe Oberlé. »
Elle allait riposter, mais un pas énergique faisait crier le sable de l'avenue. Un homme tournait l'angle d'une pile gigantesque de hêtres. Une voix timbrée, impérieuse, et qui chantait pour paraître la voix d'un homme heureux et sans regret, dit
« Les voilà donc, ces chers petits. Quelle promenade vous avez faite, mes enfants ?
De la chute d'eau de l'usine, je vous ai vus dans les blés, comme deux amoureux, penchés l'un vers l'autre. »
Monsieur Joseph Oberlé interrogea le visage de ses enfants et vit que celui de Lucienne, du moins, était souriant.
« Nous avions donc des confidences à nous faire ? » continua-t-il. « De grandes confidences, peut-être ? »
Lucienne, gênée par le voisinage de la porterie,
et plus encore par la douleur exaspérée de son frère, répondit vite « Oui, j'ai parlé à Jean, il a compris, il ne s'opposera pas. » Le père saisit la main de son fils. « Je n'attendais pas moins de lui. Je te remercie, Jean. Je n'oublierai pas cela. » Dans sa main gauche, demeurée libre, il prit la main de Lucienne et, comme un heureux père, entre ses deux enfants, par la grande avenue tournante que suivaient les voitures, il traversa le parc. Une femme, derrière les vitres du salon, les voyait venir et ne recevait qu'une joie bien mêlée de cette scène familiale. Elle se demandait si l'union du père et des enfants était enfin faite contre elle. « Tu sais, mon cher Jean, » disait le père, redressant la tête et interrogeant la façade du château, « tu sais que je veux ménager les susceptibilités, préparer les solutions, et ne les imposer qu'à la dernière extrémité. Nous sommes invités chez les Brausig. »« Ah, c'est déjà fait ?»« Oui, un dîner, une soirée assez nombreuse, pas trop. »« Je suppose que l'occasion sera très bonne pour présenter M. de Farnau à ta mère. » « Je ne parlerai à ta mère qu'ensuite. Et pour ne peser en rien sur ses impressions, pour qu'elle ne rencontre pas mon regard, elle, que tu sais, si timide, lorsqu'elle causera avec ce jeune homme, je refuserai pour moi. Je te confierai l'avenir de Lucienne. Cette chère petite, tout mon rêve est de la rendre heureuse. Pas un mot à mon père, n'est-ce pas? Il apprendra le dernier, ce qui ne le concerne en somme que secondairement. » Le grand espace vide devant le perron n'avait pas depuis longtemps vu un groupe aussi étroitement uni, foulé, sans sable, toujours nivelé. Dans le salon, un peu en retrait, tâchant de laisser quelque confiance entrer dans son âme et n'y parvenant pas, Madame Oberlé s'était arrêtée de travailler. La tapisserie était à terre. J'en songeais. J'aiderai donc à cette entrevue et j'y conduirai maman, qui ne se doutera de rien. Quel rôle je vais jouer pour éviter de plus grands maux. Elle me pardonnera un jour, heureusement, quand elle saura tout. Le soir, tard, en embrassant son fils, Madame Oberlé demandait « Ton père insiste pour que j'accepte l'invitation des Brausig. Iras-tu, mon bien-aimé ? Oui, maman. Alors j'irai. »